Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bossouma, voici le sommaire. Première réunion du Conseil des ministres du gouvernement soumis Noyer à Kinshasa. Le chef de l'État donne des orientations claires de travail en ce nouveau quinquennat. Félix-Antoine Tshisekedi souligne entre autres la nécessité pour chacun de mesurer l'ampleur de la mission lui confiée et tous les trois mois, il y aura une évaluation de l'action de chaque membre du gouvernement. Ituri, environ 1500 familles des déplacés regagnent leur village d'origine dans le territoire de Djougou. C'est après 3 ans de refuge, retour motivé par la présence de l'armée dans la zone et les conditions de vie difficiles dans leur lieu de refuge, expliquent les responsables des sites. Et puis, l'invité de ce matin, lieutenant-colonel Kedagny Mensa, porte-parole militaire de la force onusienne. Il nous parle notamment des opérations de la force de la MONUSCO à Kanyabayonga au nord Kivu. Ici, des affrontements se poursuivent entre les FARDC et le M23. Madame, Messieurs, bonjour. Les 54 membres du gouvernement souminois se sont retrouvés officiellement hier pour la toute première réunion du Conseil des ministres à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Comme à l'accoutumée, c'est le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui a présidé en personne ce Conseil des ministres. Le président de la République a donné aux membres du gouvernement lors de cette réunion des orientations claires de travail durant ce nouveau quinquennat. Voici un extrait du compte-rendu de cette première réunion par Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, propos choisi par Billy Van Lutumba.
Avant de tracer la ligne de conduite pour les ministres, le président de la République, chef de l'État, a souligné la nécessité pour chacun d'entre eux de mesurer l'ampleur de la mission qui leur a été confiée. Vous êtes ici pour la République. Vous devez oublier vos couleurs politiques, vos convictions religieuses, pour vous mettre totalement à la tâche et répondre aux besoins de nos populations, a-t-il martelé. Au sujet de la situation sécuritaire qui reste une question prioritaire, le président de la République a invité les nouveaux membres du gouvernement à être des lobbyistes de cette cause dans toutes les rencontres internationales auxquelles ils seront conviés. À lui d'insister. Nous devons tous nous assurer que nous contribuons effectivement au retour de la paix dans l'est de notre pays. Le président de la République a annoncé qu'il sera procédé à intervalles réguliers de 3 mois, un suivi et une évaluation de l'action de chaque membre du gouvernement pour s'assurer de son efficacité. Les conséquences seront tirées au terme de chaque évaluation, a-t-il souligné, tout en recommandant la bienveillance, la courtoisie, la sobriété, la bonne gouvernance et l'exigence d'une conduite irréprochable dans tous les domaines au regard du caractère prestigieux des fonctions ministérielles.
Entre-temps, les députés nationaux se disent inquiets par la faiblesse de l'appareil de l'État et invitent le gouvernement à prendre des mesures conséquentes pour lutter contre l'insécurité et la mégestion. Au cours de la plénière d'hier, le député Mouindo est intervenu par motion d'information pour tirer la sonnette d'alarme sur la complicité de certains généraux des FARDC dans l'affaiblissement de l'armée face au M23. Pour sa part, Hubert Furukuta invite l'Assemblée nationale à renforcer le contrôle parlementaire afin de sanctionner les membres du gouvernement, auteurs du clientélisme, du népotisme et de l'injustice qui fragilisent, selon lui, la cohésion nationale et affaiblissent le pouvoir public. Plus de détails avec vous, Michel Kifindangoy.
Dans sa motion d'information, le député Obed Mouindo révèle que la progression du M23 est encouragée par la multitude des généraux sur terrain, dont la majorité sont en complicité avec l'ennemi.
Les jeunes patriotes engagés sur terrain viennent de m'alerter que le M23 est en train d'envahir le territoire de l'Uber et nous proposent ce qui suit si nous voulons que le M23 s'arrête immédiatement. Placer immédiatement les nouvelles unités militaires récemment formées sous un nouveau commandement. Assurez-vous que les militaires en front mangent très bien et disposent des munitions. Sanctionnez sévèrement tous les traîtres avérés. Mettez fin à l'état de siège.
À côté des questions sécuritaires, les députés Hubert Furukuta pose le problème d'insécurité sociale de la population de province à la suite de l'injustice et dysfonctionnement des services à Kinshasa.
Depuis près d'une année maintenant, les lauréats au concours de la magistrature venus des provinces sont en détresse ici à Kinshasa. Ils sont obligés de passer de longs séjours sans être reçus. Tous les privilèges ne bénéficient qu'aux proches proche des autorités à Kinshasa.
Réagissant à ces différentes motions d'information, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, promet de saisir la première ministre pour apporter des solutions à tous ces problèmes.
Exploitation illégale des minerais. La RDC intente une action en justice contre le géant Apple lors d'une rencontre jeudi à Kinshasa entre les patrons des médias d'une part et les avocats de la RDC d'autre part. Patrick Muyaya, ministre des médias et porte-parole du gouvernement, a indiqué que le gouvernement congolais prépare également des poursuites judiciaires similaires contre d'autres entreprises. Le compte-rendu de Paul Matendo Mayamba.
Ce qui se passe dans l'est de la RDC est tout simplement inacceptable, ont indiqué les avocats de la RDC. Selon eux, il faut démontrer que les téléphones fabriqués par exemple par Apple contiennent du sang, comme le dit William Bourdon, l'un d'eux.
Que ce qui se passe dans votre pays, dans l'est du pays, est inacceptable. Il faut agir, il faut trouver des vecteurs d'influence et nous croyons qu'avec cette action, nous allons pouvoir montrer à la fois aux utilisateurs, aux acheteurs de téléphones qui se vendent aux États-Unis et en Europe pour 1000 dollars la pièce ou 1000 euros la pièce, qu'il y a du sang dans le téléphone.
Pour sa part, Patrick Muyaya souligne que la RDC s'engage à travers cette action à recouvrer les intérêts perçus par les tiers.
Nous allons maintenir la vigilance et nous assurer que nous faisons comme gouvernement tout ce que nous devons faire pour ramener la paix dans l'est de la RDC, mais aussi pour recouvrer nos intérêts qui ont été indûment perçus par ceux qui profitent justement du recel de nos minerais.
Le ministre des médias ajoute que c'est une campagne sur plusieurs fronts médiatiques, diplomatie, pour défendre le droit de la RDC.
Par ailleurs, à l'audience publique du procès des présumés assaillants de la tentative du coup d'État manqué du 19 mai à Kinshasa, plusieurs mémoires ont été développées par les avocats des prévenus, plaidant pour l'annulation pure et simple de tous les procès verbaux établis lors de l'instruction préjuridictionnelle. Devant le tribunal militaire à la prison de Ndolo, les avocats ont soulevé des exceptions qui remettent en cause la procédure judiciaire entamée au niveau des services de renseignement militaire jusqu'à l'auditorat général des FARDC. La cause a été renvoyée au mardi prochain pour la poursuite des débats. Le récit de Jeff Ngoy.
Tous les prévenus doivent être remis en liberté provisoire et l'instruction reprendre à zéro car elle a été biaisée selon les avocats. Ils demandent au tribunal la restitution de tous les biens des prévenus confisqués tels que les téléphones. S'agissant de certains prévenus comme l'Américain Zalman, son mémoire se fonde sur l'article 18 de la Constitution qui dispose que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des faits qui lui sont reprochés. Il doit être aussi entendu dans sa langue qu'il comprend. Or, ses avocats estiment que l'OPJ qui l'a auditionné n'a pas respecté cette procédure. Il s'est autoproclamé interprète et leurs clients ne comprenaient rien de leur conversation, d'après les avocats. Quant aux mémoires d'une dizaine d'autres prévenus, ils demandent leur liberté provisoire, rejettent la compétence du tribunal militaire de juger des civils. Pareille demande pour les prévenus Kele Mouela canadien et Jean-Jacques Ondo belge. Le premier montre au juge des plaies de torture physique dont il a été victime. Le second, compte tenu de sa notoriété d'expert militaire, argue ses avocats, sa fuite ne serait pas à craindre s'il bénéficiait d'une liberté provisoire.
Direction l'Ituri, je vous le disais en titre, environ 1500 familles des déplacés de guerre ont regagné ces deux derniers mois leur village d'origine à Kafé, Mbogi et Nyamamba à la plaine du lac Albert dans le territoire de Djougou. Ces personnes étaient installées depuis au moins 3 ans au site de Nyamoussassi et de Kassieni ainsi que dans des familles d'accueil. Ce retour des déplacés est motivé par la présence des FARDC déployés récemment dans la zone et les conditions de vie difficiles dans leur lieu de refuge, précise les responsables des sites des déplacés. Le point avec Isaac Remoyope.
Un afflux de retournés de guerre s'observe depuis 2 mois dans les localités lacustres de Kafé, Mbogi et Nyamamba, à 80 km au sud de Bunia. Au moins 1000 familles en provenance de Tchomia sont déjà enregistrées dans ces entités, précise un notable de la chefferie de Bahema Banyuagi. Aussi des déplacés de Kassieni, au moins 400 familles ont déjà quitté pour rejoindre leur village d'origine, déclare son président. Ces retournés ont repris les activités agricoles et de pêche qui leur permettent d'améliorer leurs conditions de vie après plusieurs années de calvaire. D'autres déplacés s'installent provisoirement pendant 2 à 3 semaines dans ces villages. Ils rejoignent ensuite leurs enfants dans des sites. Selon eux, les dispositifs sécuritaires mis en place ne rassurent pas encore pour s'installer définitivement dans ces entités où des miliciens circulent encore avec leurs armes. D'autres encore attendent la fermeture de l'année scolaire pour retourner avec leurs enfants. Des sources concordantes attestent que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée dans la zone depuis le déploiement des FARDC. Les comités des déplacés justifient également ce retour massif par les conditions de vie précaires dans les sites où l'aide alimentaire est suspendue depuis 2 ans. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Et puis, pourquoi la RDC peine à trouver une stabilité dans sa partie est, tout comme avec ses voisins? Cette question était au centre d'un atelier jeudi à Goma, atelier qui a réuni une dizaine d'acteurs de la société civile. Ce panel de réflexion est une initiative de l'Organisation des jeunes chrétiens en Afrique pour le développement, OJICAD, en partenariat avec le Centre de recherche, de formation et publication CRPT basé à Nairobi. Ces organisations veulent ainsi comprendre la crise sécuritaire et la dynamique des conflits que connaît l'Est de la RDC et ses voisins, cela dans le cadre des études qu'elle mène depuis 5 ans, dont l'objectif est de surveiller la dynamique des conflits dans certains pays de la région, notamment la RDC. Plus de détails avec Sifa Maguru.
Plusieurs questions ont été évoquées dans ces assises, notamment les causes récurrentes de conflits, mais aussi pourquoi tous les efforts entrepris au niveau local et régional, notamment des accords qui ont déjà été signés pour établir la paix, n'ont pas abouti jusqu'ici. Jackson Wibika, l'un des intervenants, est coordonnateur de l'ONG SODAS.
Tout le monde en RDC est à la recherche de la paix durable. Mais beaucoup plus, je vais m'atteler sur les points que nous avons développés, qui parlent sur les processus inclusifs dans la ou la constellation de la paix. Entre autres, nous avons parlé de l'implication de la jeunesse, de la femme, sur l'inclusion des personnes vivant avec handicap. Nous avons essayé même de parler sur l'implication des groupes ethniques. Lorsque nous avons parlé par rapport à l'inclusion des jeunes, nous avons dit que les jeunes jouent un grand rôle dans le processus de la paix. Il faut qu'il y ait la création de l'emploi à la jeunesse. Lorsque les jeunes manquent de l'emploi, cela occasionne à ce qu'ils s'enrôlent dans les forces et groupes armés de couper des routes.
Le rôle des organismes régionaux et internationaux dans la dynamique de la paix et la stabilisation a également animé ces débats. Des recommandations ont été formulées à la clôture de ces échanges en vue d'arriver à une stabilité de la région. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Restons en Nord Kivu. Conflit commercial au poste frontalier de Kasindi-Lubu. La synergie de la société civile du groupement de Basongora a déclenché depuis jeudi une grève illimitée. Cette structure citoyenne entend ainsi protester à sa manière contre la tentative de délocalisation vers l'Ouganda du marché de poissons salés du poste frontalier de Kasindi-Lubiria. Dans un mémorandum adressé au ministre du Commerce extérieur, elle dénonce ce qu'elle qualifie de pratique mafieuse du gouvernement ougandais et sollicite l'implication du gouvernement congolais. Denis Kalinga, porte-parole de la synergie de la société civile du groupement de Basongora, explique. Il est joint par André Kitenge.
Chez nous, c'est un grand regret de voir un pays comme l'Ouganda commence à bloquer même la marchandise qui devait transiter en République démocratique du Congo. Alors que sur les plans économiques, on devait normalement collaborer. Mais aujourd'hui, ces pays se permettent maintenant à bloquer la cargaison de poissons salés chez eux en Ouganda, alors que le lieu de transit de ces marchandises, c'est en République démocratique du Congo. Et voilà la conséquence, la population commence maintenant à errer et ça commence à basculer même l'économie de la cité de Kasindi. Nous sommes en train de dénoncer avec énergie cette façon de faire et cette manière d'agir de la part des autorités ougandaises. Alors que le ministre du Commerce extérieur ainsi que d'autres collaborateurs puissent nous aider à lutter très fort pour que nous puissions récupérer ce marché. Ça va aider l'économie congolaise et voir même comment résoudre les problèmes du chômage en groupement Basongora où la population est maintenant victime.
En réaction, Julien Paluku, nouveau ministre du Commerce extérieur, promet de se prononcer après la prise de ses nouvelles fonctions. Dans l'actualité aussi, cette déclaration du collectif des enseignants désactivés par la Direction nationale de contrôle de la préparation de la paix et de la maîtrise des effectifs du personnel administratif et enseignant d'INACOPE en sigle. Lors d'une assemblée générale tenue jeudi à Kinshasa, ces enseignants qui se disent privés illégalement de leur salaire demandent au gouvernement souminois de les réintégrer à la paix avec effet rétroactif. Méliès Ndelo, coordonnateur de ce collectif, explique la situation au micro de Paul Matendo Mayamba.
Et au cours de cette assemblée générale, il était donc question de recevoir les dossiers de toutes les victimes de ce phénomène destructeur dénommé désactivation entretenue par la DINACOPE sous influence des politiciens. Et aujourd'hui, nous avons compris que la DINACOPE a changé à un instrument de règlement de comptes. Imaginez-vous que nous avons suivi avec peine des témoignages de femmes veuves qui ont perdu le salaire 6 mois durant, une année pour d'autres. Et nous avions reçu ici un enseignant aveugle qui a perdu son salaire comme ça pendant qu'il est en position d'activité. Et il nous revient maintenant l'obligation d'apporter auprès de madame la ministre d'État qui nous fait ça déjà. Et nous osons croire déjà que par son canal, le dossier de tous les enseignants désactivés seront résolus avec effet rétroactif.
Pour rappel, ces enseignants ont été désactivés à la suite des réformes entreprises par le ministre sortant de l'EPST, Tony Mwaba. Parmi ces réformes, la transformation du service de contrôle et de paie des enseignants SECOPE en direction nationale de contrôle, de la préparation de la paie et de la maîtrise des effectifs du personnel administratif et enseignant DINACOPE en sigle.
Actualité internationale.
Nous sommes au Niger. La Cour d'État lève l'immunité présidentielle de Mohamed Bazoum. La junte au pouvoir s'apprête à traduire le président déchu devant les tribunaux militaires. Le président du Niger est accusé de haute trahison, complot ayant pour but de porter atteinte à la sûreté de l'État et apologie du terrorisme. Ses avocats, qui affirment n'avoir jamais pu le rencontrer, évoquent l'avènement de l'arbitraire et la fin de l'indépendance du pouvoir judiciaire au Niger. Leurs arguments n'ont pas non plus été mentionnés devant la Cour d'État qui a prononcé ce verdict après une audience sommaire. Notez que Mohamed Bazoum a dirigé le Niger de 2021 à 2023 malgré 10 mois de séquestration et de pression extrajudiciaire. L'homme de 64 ans n'a jamais démissionné.
L'invité.
Il s'agit du porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Le lieutenant-colonel Kedagni Mensa nous parle des opérations de la MONUSCO cadrant avec le mandat de la protection des civils dans la zone de Kanyabayonga au nord Kivu, où des affrontements opposant l'armée congolaise aux rebelles du M23 se poursuivent. Il revient aussi sur les interventions de la force onusienne dans la région de l'Ituri. Le lieutenant-colonel Kedagni Mensa est avec Bernard Nyangi.
Colonel Kedagni Mensa, bonjour.
Bonjour.
Nous vous recevons encore pour parler de la situation des opérations impliquant les forces de la MONUSCO. Et commençant par le site de Lubero, où cette semaine encore, il y a eu des affrontements à qui ont opposé les FARDC et aussi les groupes armés locaux contre l'M23. Pour cette semaine ici, que pouvons-nous retenir sur la situation autour de Kanyabayonga à la suite effectivement de ces derniers affrontements?
Le 3 juillet 2024, la brigade d'intervention de la MONUSCO a reçu des informations selon laquelle une femme a été blessée lors des affrontements. Aussitôt, la MONUSCO a envoyé une unité de réaction rapide ainsi qu'une équipe médicale. L'équipe médicale a rapidement administré les premiers soins à la femme blessée, stabilisant son état de santé avant de l'évacuer à l'hôpital de Kania, au nord de Kanyabayonga. Car le personnel médical de l'hôpital de Kanyabayonga avait également fui en raison du conflit en cours. Le 11 juillet 2024, à la suite des affrontements et des 5 obus de mortier tirés par le M23 qui ont atterri dans la ville de Kanyabayonga, 3 jeunes filles âgées respectivement de 6, 12 et 13 ans ont été blessées. Elles ont reçu un traitement médical adéquat. Malgré ces défis, l'engagement inébranlable en faveur des civils demeure le rôle essentiel que joue la MONUSCO dans la protection des personnes vulnérables au milieu du conflit en cours.
Et faisons un tour dans l'Ituri où il y a eu une réhabilitation du pont. Qu'a fait, quel peut être l'impact de ce projet sur la population locale et même sur la mission?
Le 6 juillet 2024, une étape importante a été franchie avec l'inauguration du pont de Café, un projet à impact rapide mis en œuvre par le contingent bangladais de la MONUSCO. Cette infrastructure cruciale permet désormais de relier le site de déplacés de Tché, Pandourou et le village de Balo, symbolisant ainsi un nouveau chapitre de connectivité et de développement pour les communautés locales. En effet, historiquement, il y avait un pont construit localement à cet endroit, faisant partie intégrante de la route menant au lac Albert, une route vitale pour les commerçants. Au fil du temps, la détérioration du pont a rendu la route inaccessible, isolant les communautés de chaque côté. La séparation a non seulement entravé les activités économiques, mais a également fracturé le tissu social du territoire de Djougou. La construction du nouveau pont de Café par la MONUSCO est une initiative transformatrice qui rétablit la liberté de mouvement des communautés des deux côtés. Sur le plan opérationnel, le pont étend la mobilité des forces de la MONUSCO jusqu'au-delà du village de Balo, renforçant considérablement leur capacité à protéger les civils dans le territoire de Djougou. Cette mobilité accrue est vitale pour une réponse rapide aux attentes des populations, mais surtout facilite la mise en œuvre efficace du mandat de la MONUSCO. Socialement, le pont de Café réunit des communautés autrefois divisées. Il rouvre la route commerciale essentielle vers le lac Albert, revitalisant l'économie locale basée sur la pêche et favorisant la cohésion sociale. La réhabilitation de ce pont témoigne de l'engagement de la MONUSCO non seulement à protéger les civils, mais aussi à améliorer leur qualité de vie grâce à des projets d'infrastructures stratégiques.
Et pour terminer, dans la même zone, il y a le soutien aussi qu'apporte la MONUSCO aux populations locales, particulièrement de Katoto et ses environs. Qu'est-ce que nous pouvons savoir là-dessus?
Dans le cadre de son soutien intégré à la population locale dans l'est de la RDC, la MONUSCO a mené une campagne médicale à la maternité de Katoto. Le personnel médical du contingent bengandais a conduit cette campagne, avait prévu initialement une centaine de personnes. Cependant, compte tenu de la présence d'hommes et de femmes âgées des 20 villages voisins, la campagne s'est poursuivie jusqu'au-delà de l'effectif pour satisfaire les besoins des populations.
Lieutenant-colonel Kedanyi Messa, je rappelle que vous êtes le porte-parole militaire de la force de la MONUSCO. Merci.
Merci.
Et notre invité répondait aux questions de Bernardin Yangui. C'est la fin de ce journal mis en onde par Pierre Diassinois. Merci de rester des nôtres.